grand angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour. Le gouvernement israélien veut faciliter l'achat de terres par des colons, mais aussi l'administration de sites religieux en Cisjordanie. Le cabinet israélien a ainsi approuvé des mesures administratives et juridiques radicales pour remodeler la structure de gouvernance de la Cisjordanie occupée et ainsi accélérer la colonisation. Notre invité Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluence Méditerranée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce qu'a fait le cabinet israélien, est-ce une annexion juridique qui ne dit pas son nom ?
Disons que c'est une annexion qui ne dit pas son nom, puisque une annexion sur le plan juridique devrait passer par une déclaration et qui pourrait impacter le droit international. Là, c'est beaucoup plus pernicieux, puisque ce sont des mesures internes qui sont prises. C'est une législation israélienne dont ils décident qu'elle s'applique à des territoires occupés, évidemment en contravention absolue avec les principes des conventions de Genève en matière d'occupation, qui disent toujours évidemment que pas parce qu'on occupe par la force un territoire que pour autant on peut légiférer sur ce territoire, même sur le plan juridique, on va beaucoup plus loin dans les conventions, puisqu'en principe la puissance occupante ne peut pas changer la législation du pays occupé. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment effectivement dans une annexion, après on peut mettre les mots qu'on veut, des jurés, non pas par une déclaration, mais effectivement par l'utilisation de moyens juridiques internes.
Et c'est une ligne rouge pour de nombreux pays arabes, notamment.
S'agissant du plan de Trump, ce n'est pas un plan de paix, c'est un plan de cesser le feu, incontestablement, et encore avec des limites, puisque nous avons toujours des morts palestiniens. Il y a en moyenne 5 morts par jour depuis le cessez le feu. Avant, il y en avait 100 par jour depuis octobre 2023. Donc, il y a eu, effectivement un cessez le feu par rapport à l'intensité des bombardements qui avaient lieu pendant ces 2 années, jusqu'au 10 octobre 2025. Mais au-delà, ce n'est pas un plan de paix. Il faut utiliser les termes précis, je crois, et malheureusement, on ne le fait pas encore assez. C'est-à-dire, en fait, on a installé sur Gaza une tutelle, au sens pratiquement du mandat britannique à l'époque de la Société des Nations en 1922, c'est-à-dire en fait une puissance étrangère qui, sous le couvert ici des Nations Unies, s'arroge les droits de décider du destin d'un territoire et donc du peuple qui s'y trouve. Voilà la réalité, n'est-ce pas ? Nous sommes vraiment dans ce schéma-là, avec en plus sur le plan territorial une situation qui devrait évoluer mais qui à mon avis ne va pas évoluer avant longtemps, en tout cas avant un certain temps, c'est-à-dire à l'est de cette fameuse ligne jaune qui coupe le petit territoire de Gaza en deux. À l'est, il y a en fait 2 millions de Gazaouis, pratiquement toute la population qui vit dans des conditions absolument épouvantables, sans avoir la moindre infrastructure. Les maisons sont détruites, comme on le sait. Et puis, en termes de quotidien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Enfin, il faut essayer, c'est 2 millions de gens assistés pour l'essentiel, quoi. Donc, qui sont dans un état de précarisation absolue. Et puis, l'autre partie, à l'ouest, c'est encore occupé par l'armée israélienne, qui a des projets immobiliers sur cette partie qu'elle a entièrement détruite. Donc, dans ces conditions, et puis, ce que vous avez dit sur la Cisjordanie doit se rajouter à ça, puisque dans le plan Trump, il n'y a pas un mot sur la Cisjordanie, mais le mot même de Cisjordanie n'apparaît pas. Donc, ça montre à quel point il n'est pas possible de parler d'un plan de paix. Voilà, nous sommes plutôt, je le dis, dans l'installation d'une tutelle des Américains et d'une continuation de l'occupation avec la volonté d'empêcher absolument qu'il y ait un État palestinien. Voilà la réalité concrète.
Ce que vous dites est particulièrement intéressant. Les États-Unis qui ont réussi à imposer leur vocabulaire, cela auprès de l'ensemble de la communauté internationale. Ce plan de Donald Trump, vous le qualifiez comment ? C'est un plan de tutelle, c'est ce que vous dites ?
C'est un plan qui a permis un cessez-le-feu pour ensuite installer un système de tutelle d'une puissance étrangère, et je dis sous couvert des Nations Unies, parce que si vous regardez de près la résolution de novembre 2025 qui a donc endossé le plan Trump, les mots qui sont utilisés par la résolution sont des mots d'une passivité totale. Par exemple, le Conseil de sécurité, je cite la résolution, salue la création de ce plan de paix, il l'appelle comme ça. Ou bien encore, il y a un autre passage où le Conseil de sécurité croit savoir qu'il se passe telle ou telle chose, que les entités opérationnelles qui sont prévues dans le Conseil de la paix seront financées par des fonds privés. Donc des termes de croit savoir ou saluer ne sont en rien des décisions du Conseil de sécurité. C'est vraiment le Conseil qui a endossé passivement le plan Trump. Donc voilà, c'est tout. Et donc après, Trump en a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire, je le répète, c'est une tutelle, il n'y a rien d'autre. Il y a un centre de coordination surveillant du cessez-le-feu, c'est dirigé par les Américains. S'il y a une force internationale qui s'installe, elle sera dirigée par un général américain. Et sur le terrain, ce sont les Américains qui envisagent des projets immobiliers, comme chacun le sait, etc., etc. Donc on est vraiment dans un système de tutelle. Il faut vraiment remonter aux années 20 pour avoir un schéma juridico-politique à peu près équivalent.
Comment comprenez-vous l'acceptation de la part de la communauté internationale de ce plan dit de paix ? La France, notamment, qui a salué l'entrée en vigueur de la phase 2 de ce plan. L'Union européenne également, qui semble applaudir.
C'est vrai qu'au début, elle a acquiescé. Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que bon, ça conduisait à un vrai cessez-le-feu, parce que passer de 100 morts par jour à 5 morts par jour pour la population de Gaza, oui, c'est tout de même un progrès important, même si ensuite on est dans le désastre que j'évoque et qui risque de durer. Donc c'était logique d'une certaine manière que la France ne s'oppose pas à un plan dit de paix, j'insiste sur le dit de paix, mais ensuite je pense que la France et d'autres pays comme la Grande-Bretagne, sans doute d'autres pays européens, probablement l'Arabie Saoudite, ça serait à vérifier, espéraient qu'il y aurait effectivement l'enclenchement d'un processus politique qui permettrait d'arriver vers quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire au terme de la déclaration de New York de septembre 2025, où on allait vers une solution politique avec une place importante réservée aux Palestiniens dans la phase de transition, avec l'espoir dans X, 2, 3, 4 ans de réfléchir à un État palestinien. Or, tout ceci, l'espoir d'infléchir le plan Trump dans cette direction, eh bien, on voit bien que cet espoir a été complètement dissipé. Il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Et quand on parle avec des diplomates français qui sont au cœur de ce processus, ils sont assez découragés, assez désemparés. Ils ne le disent pas de cette façon-là. Mais enfin, clairement, ils n'ont plus, pour reprendre leur langage, ils n'ont plus de levier pour agir, c'est-à-dire de moyens précis, concrets. Ajouter à cela, eh bien, que chaque pays a ses propres problèmes. Pour la France, bon, il y a des problèmes d'intérieur qui fait que la question de Gaza n'est pas une priorité. Elle l'a été pendant quelques temps, vraiment, pendant tout le semestre 2025. Mais aujourd'hui, ça s'estompe et c'est vrai que la réalité, elle se fait non plus à New York, si toutefois elle s'est jamais faite à New York, mais bien sur le terrain. Et sur le terrain, ce sont les Israéliens, l'armée israélienne et bien sûr les Américains.
Et la France, hein, qui fait partie des pays européens qui ont le plus aidé la bande de Gaza. C'est important de le souligner, hein. De nombreuses actions.
Bien sûr, là, il y avait vraiment un vrai projet. Il faudrait que vos auditeurs lisent la déclaration de New York de septembre, qui a été endossée par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025 et qui a été votée par plus de 142 États. Il y avait contre les États-Unis et Israël, bien entendu. Donc c'était un vrai projet politique, un vrai chemin de paix pour le coup, le contenu de cette déclaration de New York, sauf que il y a les textes à New York et ensuite il y a la réalité sur le terrain. Cette réalité sur le terrain, eh bien, elle est celle que pour l'essentiel, j'essayais de décrire précédemment.
Ce que vous avez fait, la France qui a reconnu l'État palestinien, un geste qui a été suivi par de nombreux États également, c'est à souligner.
Absolument.
Quand Mahmoud Abbas publie un décret présidentiel qui ordonne la diffusion de la première version du projet de constitution provisoire de l'État de Palestine, est-ce que c'est un pas vers une gouvernance de cet État sans la participation du Hamas ?
Là, il y a quelque chose de pathétique, si vous voulez, c'est que on a obligé, que ce soit les Américains ou les Européens ou les Français, on a exigé de l'autorité palestinienne qu'elle se réforme, que la gouvernance soit réformée, ce qui était effectivement une nécessité. Donc l'autorité palestinienne cherche à assumer ses obligations et donc faire des réformes. Mais c'est dérisoire parce que ça ne pèse en rien sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc c'est important qu'il le fasse, mais c'est radicalement insuffisant. C'est un acteur complètement discrédité, et c'est plus là que ça se passe. Ça se passe sur le terrain une fois encore, et les Israéliens sont bien déterminés, vous avez commencé l'entretien comme ça, à en fait empêcher toute velléité d'État palestinien, et par conséquent, font ce qu'ils font en ce moment en Cisjordanie. Ça va s'accentuer s'il n'y a pas de réaction internationale, et je crains qu'il n'y en ait pas. Et sur le terrain à Gaza, c'est la situation telle que je vous la décrivais. Donc, évidemment, on peut modifier une constitution, mais ça reste... Alors, c'est nécessaire de le faire, mais en même temps, la portée est assez, on va dire, pour être très aimable, très limitée.
Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolot. Je rappelle que vous présidez l'IREMO, vous êtes professeur émérite des universités et vous dirigez la revue Confluence Méditerranée.
C'était Grand Angle.